Alors, j'aimerais commencer ce matin avec un premier texte dans Ésaïe 53, et on va lire les versets 7 à 9. Ésaïe 53, versets 7 à 9. Nous lisons dans ce texte: « Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. » Alors, qu'est-ce qu'on voit ici dans cette description? C'est une prophétie donc, qui concerne bien sûr Jésus-Christ et qui nous parle de son arrestation avant de subir la condamnation par la crucifixion. Et on y voit Jésus qui se laisse faire, on le maltraite, on l'opprime, on l'accuse, on l'accable, on le salit, on le frappe, et lui, il n'ouvre pas la bouche. Il n'ouvre pas la bouche, il ne dit rien, il se laisse faire. Et on peut dire que c'est le comble de l'injustice. La personne de Jésus-Christ, mise comme ceci en condamnation. Et au premier abord, c'est incompréhensible. Incompréhensible. Le Dieu juste, le Dieu saint, parfait, laisse faire une injustice notoire. Et là, Dieu ne semble plus dans son rôle. N'est-il pas le juge qui doit juger justement le mal? Et le Père comme le Fils ne s'oppose pas à l'injustice. Le Père laisse faire et le Fils accepte la situation. Il ne réagit pas. Alors on sait que l'enjeu était immense puisque par l'acceptation de sa condamnation, de son jugement, Jésus était en train de payer pour nos péchés. Et quoique cela paraisse injuste, c'était au contraire l'exécution de la justice de Dieu, puisque Jésus allait être jugé, frappé pour nos péchés. Mais on peut dire que la situation n'en demeurait pas moins difficile. Christ n'avait rien fait et il subissait quand même l'accusation, l'oppression, les coups et finalement la crucifixion. C'est à la fois terrible et en même temps voilà, ça coupe la parole, l'amour qui est manifesté par le sacrifice de Jésus-Christ. Maintenant, on pourrait dire, mais ça, c'est Jésus-Christ. Voilà, c'est le Fils de Dieu, c'était le plan de Dieu, c'était ce que Dieu avait prévu pour lui. Lui seul pouvait subir un tel sacrifice, une telle injustice, et se comporter comme une brebis muette, voilà, qui ne dit rien et qui est emmenée comme à l'abattoir. Regardez 1 Pierre, chapitre 2 et verset 18. 1 Pierre, chapitre 2 et verset 18. Ici, il dit: « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. » Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. C'est un texte qui est pas facile, hein. Et c'est horrible, quoi, de souffrir injustement, de subir ce que nous ne méritons pas. Alors ça, c'est le point de vue humain, le point de vue charnel, subir l'injustice. Mais Dieu nous dit que ce n'est pas comme cela qu'on doit regarder la situation. Il dit, verset 19, « C'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. » C'est une grâce. Il dit, c'est une faveur. Voilà, on reste avec un point d'interrogation. Une grâce, une faveur. Faire ce qui est bien et en recevoir le mal, Dieu dit, c'est une grâce devant lui. Par exemple, on vous donne un coup, vous ne rendez pas le coup, eh bien, c'est bien, c'est une grâce. On est méchant avec vous, c'est une grâce. répondez par le bien. En fait, il nous enseigne ce que Jésus nous a enseigné, puisqu'il a dit, si quelqu'un te frappe la joue droite, tends-lui aussi la gauche. C'est un passage difficile à vivre. Hein. C'est difficile à avaler. La chair, elle dit, on va pas se laisser faire quand même. Hein. On marche sur le pied, mais quand même, faut réagir. En nous, tout éclate. Hein. Ça explose en nous. On veut pas. Et regardez la suite. 1 Pierre 2, verset 21 et suivant. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait, ne rendait point d'injure. Maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur, le gardien de vos âmes, ou le berger. Et là, c'est sans appel, sans appel. Il dit, c'est à cela que vous avez été appelés. Christ nous a laissé un exemple afin qu'on suive ses traces, qu'on mette nos pieds dans l'empreinte de ses pieds, qu'on fasse comme lui a fait. C'est-à-dire ne pas pécher, ne pas rendre le coup que l'on nous donne. Injurié, il ne rendait point d'injure. Maltraité, il ne faisait point de menace. Qu'est-ce qu'il faisait ? Il subissait et il s'en remettait à celui qui juge justement. Tout simplement. Et c'est quelque chose qui est vraiment très difficile naturellement. Accepter l'injustice pour soi-même. Et je dis pour soi-même, parce que vous remarquerez aussi qu'il est souvent difficile d'accepter l'injustice que subissent les autres. Parfois, vous voyez quelqu'un qui subit une injustice, et oh ! Mais c'est ça, et c'est normal. Hein ? Voilà, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. C'est normal d'aimer la justice, hein ? Tout à fait normal. Aussi, parfois, notre réaction serait de dire « Oh, mais te laisse pas faire ! Ne te laisse pas faire ! Mais vas-y ! Réponds ! Attaque ! Amène-les au tribunal !» On aurait parfois envie de réagir. Et parfois, on le fait, on le dit, hein, rend coup pour coup, parce qu'on est révolté de l'injustice que subit quelqu'un. Il faut se souvenir de Pierre aussi. Hein. L'apôtre Pierre, il a trouvé profondément injuste que son Seigneur puisse dire qu'il allait être crucifié. À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Et qui c'était ? Ben, c'était le diable. C'était le diable, et le diable là avait quelque chose, on pourrait dire un bon argument, quand même, mais c'est injuste. Il faut aimer la justice, là, c'est de l'injustice. Il faut répondre. Mais la volonté de Dieu, c'était au contraire d'accepter cette injustice. Et parfois, on veut aider l'autre en se révoltant contre l'injustice qu'il subit. Mais quel est le plan de Dieu ? Quel est le plan de Dieu ? Parce que c'est ça qui est important. C'est de se mettre devant Dieu et dire, Seigneur, mais quel est ton plan ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et peut-être que le Seigneur veut que certaines personnes passent par une injustice pour triompher finalement par le bien, par la miséricorde, par la patience, par l'amour. Et les apôtres l'ont tous compris. Si vous regardez la vie des apôtres, d'après la tradition, hein, d'après les écrits et les témoignages que l'on a, eh bien, ils sont presque tous morts en martyrs. Regardez 1 Corinthiens 4, 9 à 16. 1 Corinthiens 4 et verset 9 à 16. Car Dieu, il me semble, a fait de nous, apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants, ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en conjure, donc, soyez mes imitateurs. Là, on lit dans ce texte, les apôtres ont été en spectacle au monde, aux anges, aux hommes. On les regardait, qui se laissaient faire, et on ne comprenait pas. Mais pourquoi ils se laissent faire? Pourquoi se comporter de cette manière? Parce que ce n'est pas naturel, c'est pas normal. Mais ils étaient fous aux yeux du monde, fous pour Jésus-Christ. Ils étaient faibles. On n'aime pas être faible. On n'aime pas passer pour un faible. Ça, non. Notre honneur est parfois en jeu. Mais Paul dit, qu'importe si nous laissons notre honneur et nous sommes méprisés. Ce que dit le texte, en fait. Qu'importe. Et lui et les apôtres acceptaient la faim, la soif et la nudité. C'est quand même incroyable. C'était des enfants du Dieu Tout-Puissant, du Créateur, qui a tout à sa disposition. Ils souffraient la faim, la soif, la nudité. C'est le même Dieu qui a multiplié les pains pour une foule immense. Ou bien qui a fait sortir l'eau du rocher. Ou qui a fait en sorte que les sandales qu'ils avaient aux pieds dans le désert ne s'usent pas. Ben, ce Dieu-là laissait les apôtres subir la faim, la soif et la nudité. Plus encore, ils étaient maltraités, errant ça et là. Cette semaine, j'ai reçu des nouvelles de Paul Dédéian. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Paul Dédéian. Donc, certains le connaissent, beaucoup, je ne pense pas. Donc, c'est un pasteur, un fidèle serviteur qui avait en charge, je pense qu'il est en retraite maintenant, il avait en charge un camp d'enfants, donc un peu comme Tim et le camp arc-en-ciel. Et des dizaines et des dizaines d'enfants sont venus au Seigneur par ce camp. Il a aujourd'hui un cancer de la plèvre et il attend donc le résultat d'une série de 6 chimiothérapies. Et il y a 2 semaines, il s'est fait agresser sur un parking de supermarché. On l'a traîné avec sa sacoche. Finalement, on lui a arraché la sacoche, volé carte bleue, espèces, permis, passeport et même des précieuses preuves de son service militaire. Une semaine plus tard, le voleur qui avait les clés est venu cambrioler sa maison. Il a volé la nouvelle carte bleue. Et on pourrait se dire, mais Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi? C'est injuste, ton serviteur qui t'aime, qui te sert. Pourquoi il subit cela? Et Dieu dit, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Les apôtres eux-mêmes étaient injuriés, ils bénissaient. Persécutés, ils supportaient. Calomnier, il parlait avec bonté. C'est fort. Au point qu'ils étaient devenus, nous avons lu, comme les balayures, le rebut de tous. Vous savez ce qui traîne dans les coins, là? Voilà, ils étaient ça. C'est terrible. Et il faut l'accepter. C'est pour l'estime de soi, là, on en prend un coup. Hein. N'être plus rien aux yeux des autres. Simplement, parce qu'on veut suivre, aimer Jésus-Christ et être fidèle, obéir à ce qu'il nous demande. Est-ce que nous serions prêts à le vivre parce que nous aimons Jésus? Ou bien, autre question, que sommes-nous prêts à accepter pour le Seigneur? Qu'est-ce que nous sommes prêts à accepter pour le Seigneur? En nous, il y a souvent un désir de répondre à l'insulte, de répondre au mépris et de répondre à l'injustice. Dernièrement, certains le savent, on a eu une amende au local. Donc en fait, on a fait beaucoup, beaucoup de travaux, il y avait beaucoup de gravats. Pendant des mois, on a mis les gravats sur le trottoir. De manière très temporaire, hein. C'était 24 heures, 48 heures, et hop, on embarquait tout à la déchetterie. Et donc, On a mis des gravats une nouvelle fois sur le trottoir dans le but de les emmener à la déchetterie. Et puis, la police municipale a débarqué. Elle a dit, mais vous avez pas le droit, etc. Alors que je les avais vus déjà précédemment et ils m'avaient jamais rien dit. Et donc, je débarque, j'ignore. Hein. Je ne sais pas qu'on ne peut pas poser là temporairement le temps qu'on l'emmène. Et il m'a adressé un procès verbal. Donc, j'ai reçu une amende. Et sur l'amende, c'était marqué « piéton ». Je dis, mais attends, c'est quoi ça? C'est un piéton, il vient, il dépose 600 kilos de gravats et il s'en va. Mais la police municipale le saisit sur le fait, en train de déposer 600 kilos de gravats. Non, c'est pas ça en fait. Non, on est propriétaire, on dépose, mais on va mettre dans la voiture et puis on va tout embarquer. Je disais, mais c'est vraiment injuste. Quelque part, j'avais envie d'écrire une lettre. Dire, mais je vais payer, mais non, à quoi ça sert? À quoi ça sert, hein? À quoi ça sert? Alors on peut se dire... une injustice. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Une amende de 68 euros face à l'injustice que certains subissent autour de nous. L'injustice du mépris. L'injustice de la maltraitance. L'injustice de la persécution. Qu'est-ce que c'est ça? C'est rien du tout. Hein. Cette petite injustice, c'est vraiment rien. L'injustice d'une condamnation dans certains pays. On se trouve en prison pour des années. C'est terrible. Comme injustice. Qu'est-ce qu'on accepte pour Jésus-Christ? Dans l'église de Corinthe, les frères s'affrontaient les uns les autres. Certains s'estimaient lésés, alors ils sortaient l'artillerie lourde, hein, si on peut dire, et ils commençaient à vouloir mettre en procès un frère ou une sœur pour quelque chose. Regardez. Ce que Paul leur a dit, il les a repris sévèrement en 1 Corinthiens 6, juste après, versets 4 à 8. Si les filles voulaient bien arrêter de parler, ce serait chouette. Merci. 1 Corinthiens 6, versets 4 à 8. Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juges. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère et cela devant des infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Et Paul n'en revient pas de leur attitude. Et sa question, c'est celle au verset 7, il dit « Mais pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi vous n'acceptez pas une injustice? Pourquoi vous ne vous laissez pas plutôt dépouiller? Pourquoi? Pourquoi revendiquer ?» Et ça paraît peut-être stupide dans un monde où on ne veut rien perdre. Et moi le premier, hein, je me sens repris en lisant ce texte. Hein. J'ai commandé une imprimante. On était pressés parce qu'il fallait imprimer des choses, l'école du dimanche et tout. Bah, allez, je paye plein prix pour le port. Et elle est arrivée 48 heures en retard. Je me suis dit, mais mince, c'est pas possible ça. À quoi ça sert? Autant que je paye le prix normal, quoi. Hein. J'écris un mail, hein, quand même. Voilà, on a envie de réagir. Tout de suite. Lorsqu'on connaît Jésus-Christ, on apprend que le gagnant, ce n'est pas toujours celui qui revendique ses droits et celui qui veut être, voilà, avoir le dessus. Ce n'est pas toujours lui le gagnant. Christ a été vainqueur sur le diable, sur le monde impie, en acceptant de prendre le coup. Alors peut-être nous pouvons subir quelque chose, une injustice, sans en prendre ombrage, sans en être offensé. C'est vrai dans tous les domaines. C'est vrai dans nos rapports avec un collègue, avec un voisin. Ça arrive souvent, hein, un voisin. C'est dur ça. Et je parle pour moi aussi, je suis connaisseur. Mais c'est vrai aussi avec un frère et une sœur, et d'autant plus avec un frère et une sœur. Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? On apprend à perdre. On apprend à lâcher et à ne rien regretter. Qu'importe, on lâche, on offre, on donne, on abandonne. Pourquoi ? Parce que quand on le fait, c'est à Christ. C'est pour Christ et c'est à lui en fait. On abandonne. On enterre la hache de guerre et c'est tout à notre honneur. Quelle parole que celle-là sur la croix à Golgotha. Père, pardonne-leur. Ils ne savent ce qu'ils font. Incroyable. Le Fils demande au Père, Seigneur, mon Père, je te demande de ne pas leur imputer ce péché. Un péché terrible. Je te demande de ne pas leur imputer ce péché. Est-ce qu'on on peut faire ça ? Dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, versets 17 à 21, on lit ceci. Romains 12, 17 à 21. Il dit, « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Et on aura toujours affaire à des injustices, à des méchancetés. Tant qu'on sera sur terre, ça sera toujours comme ça. Mais le chrétien, il ne rend pas le mal pour le mal. Autant que cela dépende de lui, il cherche à être en paix avec tous les hommes. Un désir de chercher la paix avec tous. Ça veut dire, je vais faire tout mon possible pour qu'il y ait la paix. Je ne peux pas m'empêcher, je peux pas empêcher qu'on me donne des coups, mais je peux éviter de les rendre. Ça oui, c'est possible. Et je peux faire aussi en sorte qu'on cesse de m'en donner en évitant la confrontation, en évitant de provoquer. Que faisaient les premiers chrétiens quand ils étaient persécutés, quand ils subissaient de la méchanceté? Ben, ils partaient, ils fuyaient. Et c'était normal. C'est ça, rechercher la paix avec tous les hommes. Dieu dit dans les Écritures, le fer aiguise le fer. Le fer aiguise le fer. Et puis il dit aussi, faute de bois, le feu s'éteint. C'est deux vérités, deux petites vérités précieuses. Le fer aiguise le fer. Et face au fer, si nous on se comporte comme le fer, si on est aussi dur, eh ben voilà, on est perdant. Hein. Ça monte crescendo. Et faute de bois, le feu s'éteint. Si on arrête d'alimenter, hein, eh bien, ça s'éteint. Alimenter la querelle, voilà. C'est fou comme parfois la vengeance nous monte au nez. On a envie de rendre à l'autre ce qu'il nous a fait. Et on peut dire, même c'est un principe biblique, puisqu'à l'origine c'était œil pour œil, dent pour dent. Donc c'est de la justice, entre guillemets. Hein? Voilà, si il t'a fait ça, eh ben toi tu lui rends la même chose. Bing. Mais ça s'est passé aussi. Hein? Ça, Dieu l'a mis derrière. Et Jésus-Christ est venu remplacer par ses paroles. Il a apporté quelque chose qui est supérieur, qui est au-dessus. Dieu ne nous appelle plus à rendre coup pour coup. Il nous dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Alors peut-être qu'il y aurait plusieurs manières d'interpréter ce passage. Certains diront que le jugement de cette personne n'en sera que plus grand, hein, dans le fait d'avoir manifesté de la bonté à son égard. Mais dans l'idée d'avoir des charbons ardents sur la tête, c'est une situation désagréable. Hein. On a envie de fuir, on a envie d'être libéré. C'est vraiment dérangeant. Celui qui a un feu sur la tête, il n'est pas bien. Il veut s'échapper, il veut fuir. Et c'est certain que là où il y a de la méchanceté, quand on répond par de la bonté, la personne, elle s'en trouve confuse. Elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien. Je vais vous raconter une vieille anecdote. On était, enfin j'étais à l'époque célibataire à un camp de famille. Et puis, on faisait du canoë-kayak à deux. Donc on était plein de chrétiens sur un long fleuve, je me rappelle plus trop, une rivière, parfois agitée, parfois calme. Et moi j'étais avec une étudiante à l'institut biblique avec moi, je pense. Et puis j'ai vu un couple pastoral que je connais bien, et je me suis dit allez viens. J'ai dû lui dire, je me rappelle plus, mais on va leur faire une petite bataille d'eau. Alors nous voilà, on arrive paisiblement et on commence à aller pagayer. Et ce couple pastoral reste comme ça et ne bouge pas. Et ils se prennent une de ces douches, un déluge, et ne bougent pas. Embarrassés, hein, mais pourquoi on me fait ça, quoi ? Qu'est-ce que je leur ai fait ? Alors, vous savez, quand les pagaies commencent à se calmer, mince. Parce que si, ils avaient donné des coups de pagaie, bah alors c'était fun. Mais le fait qu'ils ne répondent pas, bah, ça nous a jeté un peu dans la confusion. On était embarrassés. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Et là, nous, on pensait que c'était un jeu amusant hein, dans nos 25-30 ans. Et en fait, ça devenait une attaque injuste. C'était méchant. Et c'est toujours comme ça. Si on rend coup pour coup, eh bien, ça justifie celui qui commence. On se dit, bien raison. Mais si on ne rend pas le coup, alors celui qui a lancé l'hostilité s'en retrouve confus. C'est comme des charbons sur sa tête. Il n'est pas bien. Et parfois, je dis parfois parce que ce n'est pas toujours le cas, hein, parfois le cœur est dur, mais parfois, eh bien, la personne elle regrette aussi son geste. Elle est désolée. Et c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Répondre par la bonté pour rendre la personne confuse. Et si ce n'est pas le cas, bien Dieu dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » C'est moi qui conclut l'histoire à la fin. Maintenant, qu'est-ce qui nous rend capable de ne pas rendre un coup ? Qu'est-ce qui permet de s'en remettre à Dieu paisiblement ? C'est la foi. C'est la foi. C'est d'avoir confiance en Dieu. Le chrétien croit que son Seigneur il s'occupe de lui, qu'il est juste, et qu'il va gérer aussi les injustices qu'il subit, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. C'est ce qui permet de ne pas rendre le coup. Et c'est quelque chose d'évident quand on se penche sur les héros de la foi. On a chanté tout à l'heure les héros de la foi. C'est-à-dire tous ces croyants des temps passés qui ont accepté beaucoup d'injustices. Hébreux 11. Alors on ne va pas lire tout le chapitre. Mais dans Hébreux 11, qu'est-ce que dit le texte ? Que par la foi, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ont fait des choses extraordinaires. Et verset 35, mais la fin du chapitre dit aussi, verset 35 à 40, que par la foi, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. D'autres furent livrées au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés, moururent par l'épée, tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis, de peaux de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux, dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Et là, tout ça, eh bien, ça relate l'injustice qu'ont vécu ces croyants des temps passés, beaucoup de croyants. Ils étaient à Dieu et pourtant ils n'ont pas été épargnés par les choses les plus difficiles qui puissent être données à des hommes. C'est horrible hein, tout ce qu'ils ont vécu. Comment ils ont pu endurer tout cela ? Parce qu'ils avaient foi. Ils avaient confiance en l'Éternel, confiance en lui. Et ils croyaient que c'était meilleur d'accepter sa condition, fût-elle difficile, en attendant tout ce que Dieu leur promettait dans les Écritures. Ils parlaient même d'une meilleure résurrection. Recevoir tout ce que Dieu promet. Et c'est la foi qui nous rend capables d'accepter les injustices. La foi que Dieu est souverain, qu'il règne, il est au-dessus de tout, et c'est lui qui aura toujours le dernier mot de l'histoire. Toujours. Ça, c'est, ça apaise, hein? Ça apaise. Peut-être que certains croyants ont eu une mort honteuse, horrible, mais la récompense est aussi à la hauteur du don de leur vie. C'est pour cela qu'il est dit que c'est une grâce de souffrir pour Jésus-Christ. C'est une grâce, parce que Dieu ne l'oublie pas. Et de la même manière que Jésus est descendu au plus bas, dans l'humiliation, on lit ça en Philippiens chapitre 2, Dieu l'a ensuite souverainement élevé. Eh bien, le chrétien qui accepte aussi, pour Dieu, pour son nom, de subir des humiliations, le mépris, le rejet, la persécution, eh bien, il aura aussi à la hauteur de ce qu'il a subi un poids de gloire. La Bible dit que c'est incomparable. Souffrance et gloire sont incomparables. Incomparables. Et j'aimerais terminer avec Hébreux 12, verset 3. Il dit « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » C'est encore Dieu qui nous parle, il nous dit, l'auteur dit, considérez, prenez le temps de considérer, de regarder la personne de Jésus-Christ qui a supporté tant d'opposition, de haine, de rejet. Pourquoi cette comparaison ? Pour nous dire que jamais nous ne subirons ce que Jésus a subi, jamais. Ça ne sera pas à la hauteur de notre Seigneur. Et si lui, il est passé par là, alors, eh bien, il nous comprend et il peut aussi nous donner la force, justement, d'endurer les choses qui sont profondément injustes dans notre vie. Et c'est le point sur lequel j'aimerais terminer. C'est vraiment difficile d'accepter l'injustice. Mais Jésus nous a tracé une voie et il veut qu'on suive ses traces. Et si on se confie en lui, si on vient à ses pieds, on dit « Seigneur, je ne peux pas supporter cette injustice. C'est impossible, ça me révulse. » Si on vient à ses pieds, on s'humilie, on dit « Seigneur, mais toi tu es capable. Donne-moi la force, aide-moi à pardonner comme tu pardonnes, à aimer et à supporter comme tu supportes. » Dans 1 Corinthiens 13, il est dit « L'amour supporte tout. » Donc si on a cet amour de Jésus-Christ, on pourra aussi supporter. On pourra surmonter et triompher. Et Christ prendra davantage de place en nous. Et ça sera finalement, cette épreuve sera une victoire. Une victoire, parce que c'est Christ qui se manifestera. Vous savez, c'est très touchant quand on voit un frère ou une sœur subir quelque chose de pas gentil et on la voit manifester Jésus-Christ par de l'amour et de la bonté à l'égard de la personne qui lui a fait, j'ai envie de dire, une crasse, comme diraient les jeunes. Hein? C'est ça vous brise, quoi. On se dit, mais ça c'est beau, waouh, ça c'est Christ. On va s'incliner dans la prière.